pour moi, permet expressément de dire que tous les ministères sont ouverts à la femme, à l'exception d'anciens, qui est réservé aux hommes. Mais ancien, pour moi, ce n'est pas un ministère, c'est un rôle qu'on assume. Et je reviendrai un tout petit peu là-dessus, ça mériterait des développements. Mais tous les ministères sont ouverts aux femmes. Les passages bibliques qui semblent contredire cette affirmation sont de l'ordre de 3, en gros. 1 Timothée 2, 9 à 15, 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, c'est le fameux sandwich spirituel, hein, au niveau se trouve l'amour. 1 Timothée 2, 9 à 15, je vous ai longuement expliqué que ce texte est un texte que Paul a écrit pour éviter que les femmes qui sont instrumentalisées par des faux docteurs gnostiques, c'est-à-dire qui enseignent qu'on peut atteindre le divin par la connaissance, qui était très répandue à l'époque et qui l'est aujourd'hui aussi. C'est la doctrine des Nicolaïtes, les fameuses 7 églises dont il est question dans Apocalypse, où vous retrouvez 2 églises qui sont confrontées gravement à cette doctrine et qui a lieu encore aujourd'hui par la doctrine du Nouvel Âge et qui se répand dans les églises, je vous le signale. Donc ce passage-là interdit à la femme d'enseigner que la femme est source de l'homme. C'est ça l'enseignement, c'est-à-dire origine de l'homme, auteur de l'homme, si vous voulez. Donc, de prendre autorité sur l'homme, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de prendre autorité. C'est simplement l'enseignement qui dit que la femme est venue avant l'homme. Hein, alors que la Bible dit bien que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, le vis-à-vis que constitue la femme est fait pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Alors, c'est un ordre créationnel, tout simplement, qui est rappelé par l'Écriture et par Paul. C'est pour ça qu'il y a ce thème central. Il est écrit que Dieu a créé d'abord Adam et ensuite Ève. Et voilà, ça prend tout son sens. Les passages de 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14 constituent le passage où Dieu veut nous dire, au travers de Paul, quels sont les rôles attribués à chacun. Il y a des rôles pour l'homme et pour la femme. Et donc ça c'est 1 Corinthiens 11, et dans 1 Corinthiens 14, c'est l'ordre. Voyez-vous, il faut de l'ordre, vous êtes d'accord? Il ne faut pas que l'ordre précède la vie, mais une fois qu'il y a la vie, il faut l'ordre, parce que sinon c'est le chaos. Voyez-vous, si vous avez déjà vu peut-être dans une assemblée où tout le monde veut prendre des décisions, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos, c'est l'ordre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision, qui assume la responsabilité de la décision. Donc il y a un ordre, c'est tout. Et Dieu a créé un ordre. Et j'en veux pour preuve que ces rôles et cet ordre sont décrits dans la Trinité elle-même, dans cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois personnes dont on parle dans la Bible. Tout d'abord le rôle, je voudrais rappeler que le rôle a un sens spirituel. C'est pour ça que l'apôtre dit, c'est spirituellement que je vous parle, au niveau des rôles de l'homme et la femme. C'est pas uniquement au niveau humain, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, et ce thème spirituel est repris dans Éphésiens, chapitre 5, l'homme manifeste l'autorité en se fondant sur Christ, qui est parfaitement homme, il représente la tête. Le képhalé, la tête, Christ. Et la femme qui est soumise à la manière dont Dieu, dont Christ était soumis au Père. Christ n'était pas un paillasson, d'accord? Est-ce qu'il était un paillasson? Très souvent, les femmes pensent qu'elles sont paillassons parce qu'on leur fait croire ça. Mais c'est faux, puisque l'image spirituelle, c'est Christ. Or, Christ n'a jamais été un paillasson vis-à-vis de son Père. Vous êtes d'accord? Donc vous voyez, il faut faire attention aux clichés qu'on reçoit parce qu'elles sont décrites de manière impropre. Donc la femme est soumise à la manière dont Christ était soumis au Père, et elle représente l'Église. Donc il y a une représentation spirituelle, l'homme Christ et la femme l'Église. Et ça c'est très noble, dans les deux cas, c'est très très noble. L'autorité, ça vient de quel mot? L'autorité, de quelle origine du mot? Si on ne connaît pas les origines du mot, on a du mal parce que on a des clichés de ce que les hommes disent sur l'autorité. On voit le chef, le machin, etc. Autorité, ça vient de quel mot? Auteur. Et vous, l'auteur. Quel est l'auteur? Ben, on retrouve 2 Timothée. Quel est l'auteur, la source, l'origine? C'est l'homme, simplement parce que Dieu a créé l'homme. Et ensuite, après, il a créé la femme. C'est l'auteur, c'est pas moi, je suis là, je m'impose. Ça n'a rien à voir. Voyez. Mais on a des clichés comme ça sur des mots. C'est l'auteur. Hein. Donc on revient toujours au sens spirituel. Dieu a créé un ordre, un auteur, et cet auteur, ben, l'homme doit le représenter. C'est une fonction très importante et très représentationnelle. Donc chaque rôle est important et a une même valeur devant Dieu. Les valeurs sont les mêmes. La description est différente. Donc chaque rôle est important. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 11. Sandwich spirituel, 1 Corinthiens 14, entre les deux, il y a l'amour. Donc l'ordre et le respect est indispensable, en particulier dans un culte. S'il n'y a pas d'ordre, et aussi dans une société, s'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre et le chaos. Donc le bavardage, par exemple, est malséant. Et c'est ça que dénonçait Paul, le bavardage des femmes, parce qu'elles avaient l'habitude de bavarder, tout ça, bon, et elles sont plus facilement enclines à discuter, tout ça, bon, elles étaient très libres à cette époque-là aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est différent, les femmes sont très civilisées, les choses ont changé. Bon, en plus, à l'époque, non, vous imaginez pas, à l'époque, une femme, une femme du Moyen-Orient, ça y allait. Il y a 2000 ans, c'était pas chrétien. Donc le christianisme, c'est passé par là. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc le bavardage est malséant, vous êtes d'accord? C'est ça que dit 1 Corinthiens 14, le bavardage. L'attitude inconvenante. À l'époque, les prostituées, eh bien, se rasaient la tête. À l'époque, pourquoi? Parce qu'elles voulaient montrer qu'elles étaient libres, qu'elles étaient ouvertes à n'importe quel homme. Et pouvait donner du plaisir à l'homme ouvertement, et donc elle se rasait. Et donc le fait de porter le cheveu comme voile, eh bien, était tout simplement le fait qu'on avait un respect du mari, puisqu'on était avec un mari. Et aujourd'hui, vous voyez, je vois que les couples sont l'un à côté de l'autre, et ça montre le respect. Sinon, vous pourriez vous mettre n'importe où dans la salle. Bon, soit c'est pas très grave, mais je veux dire, c'est un respect, parce que vous sentez qu'il y a un respect à avoir, qu'on est fidèle à son mari, etc. Et la position simplement des uns et des autres montre un respect. Et c'est ça que la parole de Dieu enseigne dans 1 Corinthiens 14. Respecter le mari, lui être fidèle, lui donner le respect envers les hommes et les anges, parce que on a toujours l'enjeu spirituel, il parle aussi des anges. Ben, les anges, ils regardent. Et ils ne connaissent pas la sexualité, les anges. Donc, ils voient que, à l'intérieur de l'humanité, il y a un respect mutuel, et ça leur apprend aussi à respecter Dieu. C'est dans ce sens spirituel que Paul parle. Donc, aujourd'hui, la chevelure est encore une marque de dignité de la femme. C'est une marque de dignité. Le fait de se raser, bon, c'est un skinhead féminin, c'est un peu spécial. Donc vous voyez, c'est un manque de respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis du rôle que Dieu nous a attribué. C'est une rébellion. Hein, et on entre toujours dans la notion de rébellion. C'est une attitude profonde de cœur qui consiste, hein, et qui est important. Quelle est notre attitude de cœur? Michel, qui a vécu beaucoup dans les assemblées évangéliques, souvent on disait, il y a des femmes qui ont des grandes chevelures, parce qu'ils les gardaient très longtemps, mais ils ont la rébellion dans leur chignon. On peut être tout à fait clean devant la loi, et dans le cœur, être rebelle à son mari, et tout le temps lui couper la parole, et lui interdire, etc. Et c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est le cœur qui est important. C'est le respect vis-à-vis des uns et des autres. Plus qu'une marque extérieure, c'est la marque intérieure du respect qui est primordiale. Comment considérez-vous votre mari? Je m'adresse aux dames. Avez-vous une haute estime de sa personne? Cherchez-vous à lui plaire et suivre son leadership, ou est-ce que vous le critiquez par derrière? Attention, très souvent les fruits, on le remarque quand on écoute un peu ce qui se passe dans le dos des gens. Et ça, c'est de la trahison. Vous les hommes, moi y compris, est-ce que vous cherchez pour votre épouse le meilleur, hein? Le meilleur, cherchez le meilleur, tant vis-à-vis, en tant que vis-à-vis, hein? Cherchez-vous à lui faire plaisir, à la consulter avant de prendre une décision, en cherchant le consensus et non le dictat, selon un choix délibéré. Et je voudrais juste vous faire une petite image. Moi, j'aime bien parce que je trouve que les images vaut mieux qu'un grand discours. Et comme j'ai pas le temps du discours, je fais l'image. Et aussi, vous voyez la Trinité, hein, ça n'a rien de maçonnique. Hein. Mais bon, c'est le triangle qui permet de mettre le Père ici, hein, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Et vous, en fait, les valeurs sont pareilles, c'est trois personnes, c'est un seul Dieu. Mais il y a quelque chose qui est au milieu de ces personnes, c'est quoi ? C'est basé sur des relations. C'est pour ça qu'dans l'Église, on parle de relations et pas de religion. Hein. Relations entre ces personnes qui sont constituées par l'amour. Okay ? L'amour. Mais les rôles sont différents. Le Père, celui qui est initiateur, l'auteur, hein, lui, il est l'auteur de la création, l'auteur de l'idée, l'auteur, etc. Mais il consulte, il est parlé souvent d'un conseil. Conseil, Dieu est dans son conseil. Hein. Donc le Père consulte le Fils et le Saint-Esprit et ils prennent les décisions, le Fils exécute, etc. Mais dans Éphésiens, il y a quelque chose d'extraordinaire que je trouve, je voudrais quand même vous le citer, qui est d'ailleurs le motto de l'Église aussi, sur la vision. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, non 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre, vous voyez, c'est spirituel, dans les cieux et sur la terre, donc il y a des familles dans le ciel et sur la terre, tire son nom. Pourquoi le patriarcat est établi dans la Bible ? Parce que le patriarcat, c'est le Père qui donne son nom. Hein ? Alors que le matriarcat, c'est la mère qui donne le nom. Hein. Mais Dieu a choisi délibérément le Père, pour pas tomber dans le panthéisme du matriarcat. Et famille, toute famille, c'est quoi l'origine du mot famille ? La famille, ça vient de quel mot ? Cherchez toujours l'origine du mot. En grec, hein. Vous lisez la Bible en grec, vous avez le... Voilà. Parce que le français, les mots sont changés, parce qu'il y a du latin et du grec, le problème, c'est ça. Mais en grec, si vous lisez la Bible, là, ce que je viens de lire, le père, de qui toute famille. Et famille, c'est quoi? C'est patria. Vous connaissez la patria? La patrie. Et aussi le patrie, mais c'est famille. Patria. Donc vous voyez, l'auteur de la famille, c'est le père, pas la mère. Donc le père, la patria. Donc de qui toute patria tire son nom. C'est pour ça que la France, elle est dans la confusion parce qu'elle appelle la mère patrie. C'est très confusionnel, hein, la mère patrie. Non, la patrie. Voyez-vous, déjà, on a introduit une notion fausse. La Bible parle de Père, Dieu le Père, qui donne des familles, des patrias. Et la première famille, hein, comment les rôles doivent être distribués selon la Bible ? Ben, le Père, ok, la mère, et les enfants, s'il y en a. D'accord ? Et de circuler l'amour. C'est l'amour qui donne sens, c'est l'amour qui est à la base des relations. C'est le même principe qu'au niveau de Dieu. C'est spirituel, les enjeux. Et dans une église, comment ça doit fonctionner ? Vous avez la même chose, puisque toute famille tire son nom. Vous avez les anciens, vous avez le conseil, il nous s'appelle le conseil de fonctionnement, et les membres et le peuple. Et c'est l'amour qui est le lien de la relation. Mais vous voyez, dans tous les cas, le Père consulte le Fils et l'Esprit. Le Père doit consulter, hein, il ne doit pas prendre des décisions unilatérales. C'est le même modèle qui doit régner pour que nous puissions être sur des bases solides. Et ici, ce sont les anciens, avec le conseil et les membres où il doit y avoir l'amour également. Donc nous avons un modèle de patria, de famille, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit naturelle. J'aimerais juste dans quelques minutes faire un ministère. Je crois que il est important que nous ne restions pas sur une donnée théorique, mais sur une donnée pratique. La donnée pratique, c'est la suivante. Et peut-être qu'on reviendra sur ce temps de ministère, mais je voudrais quand même qu'à la suite de cet enseignement sur le ministère féminin, on puisse faire quelque chose d'important. C'est-à-dire demander pardon au niveau de la gente masculine et de la gente féminine des différents heurts que nous représentons aussi, appartenant à cette gente plus large. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, les féministes, ils sont pas contents après DSK, et ça se comprend, il y a des choses qui sont allées trop loin. Mais tout ça, ça heurte aussi le peuple de Dieu, parce que nous sommes dans le monde. Hein. Et dans le monde, nous saisissons les mêmes principes. Hein. Le machisme, ça existe aussi chez les chrétiens. C'est pas biblique. Okay. Le féminisme, ça existe dans l'Église. J'ai vu une Église se détruire par le féminisme. Le féminisme, c'est plus récent. Hein. Ça a commencé dans les années 68. La théologie, même une théologie féministe de lecture de la Bible. Ça s'appelle l'herméneutique de la Bible. Ben, tout ça, il ne faut pas que ça nous affecte. Alors j'aimerais demander, pour ceux qui sont d'accord, pour les hommes qui veulent demander aux femmes pardon, qu'ils se lèvent, et je vais faire une prière en leur nom. J'ai demandé à Marie-France de venir, puisque tu es la plus âgée parmi nous, enfin la plus âgée en termes d'église, qu'on puisse demander pardon aux femmes, donc d'abord les hommes, donc tu es au bénéfice du pardon des hommes, donc puisse demander pardon pour cette attitude souvent machiste qu'on a vis-à-vis des femmes, qu'on le veuille ou pas, une certaine position d'un patriarcat qui est malséant. Alors quand je dis les hommes, c'est aussi les maris, hein. Même si vous n'avez pas d'enfant, je crois que c'est important que nous puissions ne pas avoir cette position d'arrogance, de domination, hein, qui est répandue de manière malsaine dans le monde, mais que nous puissions demander pardon aux femmes en général, et après vous pouvez le faire personnellement à la vôtre quand vous serez chez vous. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir déformé, Seigneur, l'image que tu as voulu, le rôle que tu as voulu pour les hommes, Seigneur, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour souvent cette arrogance que nous avons vis-à-vis de nos épouses, en particulier des femmes en général. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous donner un cœur selon ton cœur, Seigneur, comme toi tu l'as, Seigneur, dans cette famille spirituelle que tu représentes, Seigneur. Nous voulons vraiment refléter le caractère de Christ, qui est la tête, mais qui ne l'a jamais imposé en tant que tête. Seigneur, que nous puissions refléter cet amour qui est en toi, nous te prions au nom de Jésus. Amen, amen. Et pour les femmes qui veulent demander pardon aux hommes, si vous voulez vous lever, et Marie-France va prier pour ces réactions féministes, qui sont des réactions à ce qu'elles ont subi, et pour avoir méprisé les pères aussi.
Seigneur, je te demande vraiment pardon pour toutes les réactions qui sont venues certainement à des mouvements sociaux, mais aussi nous personnellement dans nos couples, dans nos vies aussi d'adolescentes, quand on était en rébellion contre nos pères, nos papas, pardon. Et je te demande aussi vraiment pardon pour toutes celles qui sont encore en rébellion contre leur mari, souvent. C'est vrai, Seigneur, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on accepte simplement le fait que tu aies mis un ordre. Dans ta parole, il y a un ordre. Et on accepte aussi de tout notre cœur, enfin moi j'accepte, de prier au lieu de me mettre en colère, ce qui n'est pas si facile que ça, pour que cette rébellion ne porte pas de mauvais fruits. Cette rébellion qui ne doit absolument pas exister, puisque c'est l'ordre que toi tu as établi. Mais Père, tu es un Père juste et saint. Nous savons qu'en toi, nous avons toutes les forces nécessaires pour faire face à tout ce que tu nous as demandé d'être ici dans ce monde. Amen. Amen.
Je demande aux hommes qui veulent bénir les femmes de se lever. Et on va procéder à la bénédiction. Non, on va faire pour les femmes aussi. Donc les femmes, vous pouvez vous asseoir pour qu'on... On mélange pas les rôles, on mélange pas les rôles, que les hommes puissent bénir, hein, leurs femmes, simplement en étendant vos mains vers Dieu, Et nous faisons les prières ensemble. Seigneur, nous voulons bénir nos épouses tout d'abord, que tu nous as données, que tu as placées comme vis-à-vis à nos côtés, et que tu les remplisses de ta grâce, de ton amour, de ta paix, et de cette sécurité dont ils ont besoin, Seigneur, de notre part. Veuille les bénir et les rassurer de ta présence, de ton amour. Et nous bénissons les femmes en général, afin qu'elles puissent prendre leur place là où tu les as placées, Seigneur, qu'elles ont un rôle extraordinaire, Seigneur, à nos côtés. Tu les bénis et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Marie-France va prier pour les femmes.
Seigneur, au nom de toutes mes sœurs ici présentes, je te prie que nous puissions bénir nos maris. Nous bénissons, je bénis mon mari aussi. Et je te demande vraiment que tu nous donnes, par ton Saint-Esprit, la meilleure façon d'être pour qu'il soit épanoui et heureux et qu'il soit un homme qui te serve et qui t'aime, un homme parfait en toi. Et je sais que notre rôle est extrêmement important sur ce plan-là. Seigneur, merci parce que tu nous as donné les armes, mais je te prie vraiment qu'on soit vraiment rempli de ton Saint-Esprit jour après jour, minute après minute dans la journée, pour que nous puissions bénir nos maris et qu'ils soient pleinement dans le rôle que toi tu veux qu'ils soient. Amen. Amen.
On va redemander, nous les femmes restent debout, on va prier pour le ministère féminin. Que vous, femmes, vous puissiez vous sentir libres par rapport à tous ces enseignements qui vous ont bloqué peut-être, ou qui vous bloquent encore, hein, parce que c'est pas évident de se débarrasser d'un faux enseignement, pour que vous puissiez vraiment pleinement rentrer dans tous les ministères. Si vous avez un ministère, eh bien que vous vous sentiez libre d'y rentrer, et que vous puissiez vraiment exercer ce ministère, ce service auprès de Dieu, parce que vous êtes appelés à cela. Seigneur, nous te prions pour le ministère des femmes, tout d'abord dans notre Église, afin que toutes les femmes se sentent libres, Seigneur, de te servir, Seigneur, sans contrainte, mais vraiment par appel que tu as placé sur les femmes, Seigneur. Que ça ne soit pas un motif, Seigneur, de retrait ou de découragement, mais qu'au contraire, Seigneur, ces choses puissent changer dans notre Église, aussi dans ce famille à laquelle nous appartenons, Foursquare, qui est pour le ministère des femmes. Et nous te prions aussi pour ce Foursquare France, que toutes les femmes puissent prendre leur place aussi, et que nous puissions être un exemple aussi de famille épanouie selon ta parole, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Marie-France a prié pour les hommes, si les hommes veulent bien se lever, hein, pour qu'il y ait des anciens aussi, d'autres anciens qui se lèvent, hein, des anciens qui sont portes de la ville, hein, portes de la famille, portes de la patrie, hein, qu'elles soient familiales, qu'elles soient d'église ou qu'elles soient dans le pays. Hein. On a besoin d'hommes. Vous voyez, l'ennemi a vraiment, avec ces deux guerres mondiales, hein, 14-18 en Occident et 45, brisé la notion de père, hein, parce qu'ils étaient au front, ils ont été décimés, puis en revenant, les femmes avaient pris la place. Enfin, il y avait tout un renversement de choses, mais il faut qu'on refuse ça. Il faut que les hommes se lèvent, qu'ils assument leurs responsabilités. C'est pas facile d'assumer leurs responsabilités de tête, mais avec cette pensée de Christ. Hein, ayez toujours la pensée de Christ. Comme Christ agit, agissez de même. Et que nos réunions d'hommes aussi puissent grandir, comme les réunions de femmes. Vous nous avez devancé, donc vous avez, hein, plus d'avance que nous, mais qu'il y ait plus d'hommes qui viennent aussi le samedi, parce que nous sommes là en fraternité pour parler de choses qui concernent les hommes, hein, et on les échange ouvertement, que vraiment ces hommes de l'Église puissent s'unir en fraternité, vraiment selon le Seigneur.
Oui, Père, je te remets tous nos frères ici à l'Église, tous les pères, tous les grands-pères, parce qu'il y en a aussi, qui ont donné leur nom à leur famille, qui ont donné la lignée, qui n'est pas terminée. Et je te prie vraiment qu'ils puissent entrer en possession du ministère que tu leur confies et que tu leur as confié déjà, et qu'ils n'aient pas, qu'ils n'aient aucune retenue, aucune réticence, Seigneur, qu'ils soient encouragés par nous, les femmes, à prendre en main le ministère que tu leur as confié. Déjà, être père, chef de famille, c'est un ministère extraordinaire, de veiller sur sa famille, que sa famille soit à toi, que sa famille te serve, Seigneur. Mais que les ministères que tu leur donnes pour l'Église, pour les autres, dans différents mouvements, les ministères qui viennent de toi, je te prie que vraiment ils aient le courage, la force, la volonté, l'obéissance aussi, de pouvoir s'en emparer et de les exercer pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Amen.